Sam Smith, Stay With Me sur Europe 1, dans la Libre Antenne. Vous pouvez rester avec nous parce que dans quelques instants, vous aurez rendez-vous avec Marlène Duré pour les programmes de la nuit. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, dès vendredi prochain. On retrouve nos horaires habituels. Roland Pérez à partir de demain, dès 22h30. Je reviens vendredi, samedi, dimanche prochain avec à mes côtés, si tout va bien, Nicolas et Tristan, ainsi que vous, chers auditeurs. Prenez soin de vous, des autres, du monde et passez une très belle semaine.
Merci Valérie, rentrez bien, je vous embrasse. Vous écoutez Europe 1, il est 1h. Et nous allons débuter notre balade nocturne comme hier et même avant-hier avec cette immersion dans le parcours de l'une des plus grandes stars de la chanson française qui était une femme assez abîmée, disons-le, par la vie. La vie qui ne lui a rien épargné. Dalida, et oui, on parle de Dalida et c'est Pascal Praud qui raconte son histoire. Alors ces deux dernières nuits, vous avez découvert les deux premiers épisodes. Voici le troisième. Bonne nuit à tous. Destins extraordinaires. Dalida.
Dalida a amené quelque chose de nouveau, elle a amené un style nouveau, un physique nouveau. Dalida, c'était une tour, ce n'est pas une voix, simplement. Et donc, elle a amené aussi quelque chose de nouveau au musical, sa façon de se tenir. Parce qu'il faut se remettre à l'époque, les chanteuses, elles étaient la plupart habillées en noir, elles ne bougeaient pas beaucoup, elles étaient devant le micro. Et Dalida, elle est arrivée. Jeune, belle, elle prenait le micro, elle bougeait sur scène et tout ça. Ça a été un peu un ouragan. Il y en a beaucoup qui n'ont pas pu supporter la concurrence.
À la fin de l'année 1956, Dalida est matraquée sur les ondes d'Europe numéro 1 sur une idée de Lucien Maurice. C'est la déferlante Bambino dans toute la France et le début d'une longue histoire d'amour entre la chanteuse et le public français. Une histoire riche, de près de 900 chansons et de plus de 100 millions de disques vendus, mais une histoire aussi marquée par de nombreuses blessures.
Épisode 3, Laissez-moi danser.
Lucien Maurice, Eddie Barclay et Bruno Cocatrix ont pris en main la carrière de Dalida, mais entre Dalida et Lucien Maurice, il y a plus qu'une relation professionnelle. D'ailleurs, sur le disque de Bambino figure la chanson Aime-moi.
Aime-moi, mon amour, aime-moi. Il faut bien que l'on s'aime, puisqu'on est fait pour ça. Serre-moi, serre-moi dans tes bras. Je ne veux pas savoir où tu me conduiras.
Cela veut tout dire. Dalida et Lucien Maurice se parlent par chansons interposées. Un soir, Lucien franchit le pas et finit par inviter la chanteuse à dîner chez des amis. À la fin de la soirée, il ose même la raccompagner chez elle. Sur le trajet, ni l'un ni l'autre ne parlent. Ils se séparent sur le pas de la porte et sur un dernier silence. Rien ne se passe. Elle en a le cœur brisé. Finalement, il sonne à nouveau chez elle. Un recueil de mots, croisé à la main, sachant qu'elle adore ça. Puis il l'embrasse. Mais Lucien est toujours marié.
Bien sûr, si je fais le compte des journées que nous avons passées ensemble l'année dernière, je constate que cela ne fait que 4 mois sur 12. À chaque retour, nous devons refaire connaissance. Il sait que d'autres hommes ont fait la cour, il craint qu'il ne se montre trop brillant, trop entreprenant. Il dit qu'il a contre lui la foule des admirateurs. Mais il ne peut pas quitter son travail pour être constamment à mes côtés. Il ne veut absolument pas devenir Monsieur Dalida. D'habitude, Lucien a toujours raison. Mais je ne désespère pas, moi, de lui prouver que pour une fois, il a tort. Car après tout, je n'ai aucune vocation pour le malheur et les larmes. J'aime le bonheur.
Cette année 1956, c'est donc celle qui voit enfin la carrière de Dalida décoller. Elle consacre alors l'essentiel de son temps au travail avec Lucien. Bruno Cocatrix veut que Dalida se produise à l'Olympia. Seulement, elle n'a pas encore la notoriété d'une tête d'affiche. Le succès de Bambino doit être confirmé par d'autres tubes. En attendant, elle se contentera de faire les premières parties de Charles Aznavour ou de Gilbert Bécaud.
Oui.
Le voilà le deuxième tube. En 1957, Gondelier raconte l'histoire d'un homme simple, aux pieds nus, un dieu populaire de la mer et du soleil. À nouveau, le succès est immédiat. Les jeunes françaises se mettent à imiter Dalida. C'est une génération tout entière qui s'identifie à cette chanteuse qui est élue vedette la plus populaire de France. Au milieu de cette année 1959, Dalida a déjà vendu plus d'un million de disques. Comment résister à cette voix qui sent bon le soleil italien et qui chante « Come prima ».
C'est ta bouche qui m'apporte ma joie de vivre. Et ma chance, c'est de vivre rien que pour toi.
La sensibilité et la force de Dalida se retrouvent dans ses chansons. Elle enchaîne les disques, les titres, les tournées, les concerts. Mais il y a l'envers du décor. Le rythme est effréné. Le repos, jamais. La gloire n'attend pas. Et la critique commence à se frotter à elle. Comment fait Dalida pour être toujours en haut de l'affiche?
Dans tous les autres métiers, la vie moderne a imprimé un rythme trépidant. Dans le nôtre, ce rythme est véritablement diabolique. Jamais on a autant interrogé les artistes sur leur goût et sur leur personnalité, et jamais les artistes n'ont disposé d'aussi peu de temps pour s'interroger eux-mêmes. Le journaliste, le radio-reporter nous tient lieu de conscience. Et après une journée passée à répondre aux questions les plus saugrenues, nous n'avons plus le courage de nous poser nous-mêmes des questions. Nous laissons aux autres le soin de nous classer, de nous définir. Et bien sûr, comme tous mes camarades, je subis ce rythme infernal. Au début, s'ajoutait pour moi la difficulté de m'exprimer en français. Mais aujourd'hui, avec la diffusion des disques et l'énorme consommation qu'en font les radios, une chanteuse devient très rapidement véritablement internationale. C'est-à-dire qu'on lui demande d'interpréter et d'enregistrer des chansons dans une langue qu'elle ne connaît pas. À peine m'étais-je familiarisée avec le français qu'il fallait que je chante en allemand.
Dort wo man singt und lacht, da ist Hefe. Bessame, bessame mucho, subarashi, inovica.
Lucien Maurice, devenu directeur général d'Europe numéro 1, s'inquiète. Il a peur qu'elle soit allée trop haut et trop vite. Mais Dalida a déjà entamé sa troisième phase de sa carrière, portée par des tubes comme Itsy Bitsy Petit Bikini.
1, 2, 3, elle tremblait de montrer quoi.
Son petit Itsy Bitsy Bikini.
Le 8 avril 1961, Lucien, qui a divorcé de sa première épouse, retrouve Dalida à la mairie. Ce jour-là, ils se disent oui, en présence, bien sûr, de la rédaction d'Europe numéro 1. Merci.
Lucien Maurice, vous avez bien réfléchi?
Bien sûr, pendant un certain temps.
Combien de temps?
4 ans.
Pourquoi tant, si longtemps?
Bien, on hésite toujours à épouser une artiste. Et, en fin de compte, Dalida m'a fait comprendre certaines raisons que j'ai comprises et me voilà mariée et j'en suis très heureux.
Dalida, pourquoi vous avez attendu si longtemps?
Eh bien comme ça, j'espère qu'il durera plus longtemps encore.
Bon, alors vous aurez beaucoup de bambinos, je suppose.
On va essayer. Bon, on en souhaite en tout cas.
Pas pour le moment, mais j'espère pour l'avenir.
Il a fallu attendre près de 5 ans entre leur première rencontre et leur mariage, à tel point que certains appelaient Dalida et Lucien Maurice les éternels fiancés.
Lucien Maurice, consentez-vous à prendre pour épouse Yolanda Cristina Giuliotti?
Oui.
Yolanda Cristina Giuliotti, consentez-vous à prendre pour époux Lucien Maurice?
Oui.
Au nom de loi, je vous déclare unis par les liens du mariage.
Devant la mairie du 16e arrondissement de Paris, où a lieu la cérémonie, c'est la cohue. Des milliers de personnes sont là pour célébrer l'union de ces deux personnalités.
Et c'est la sortie du mariage à court de la mairie du 16e. Je suis enfoui sous les serpentins et les confettis, je ne vois même plus mon magnétophone. Quant à Lucien Maurice et à Dalida, je les distingue assez mal. Ce ne sont que des tas de confettis qui bougent un peu, qui bougent de moins en moins d'ailleurs, parce que maintenant, la cour est jonchée de confettis de serpentins pendant que l'orchestre de Raymond Lefebvre interprète dans le style fanfare de village, les plus grands succès de Dalida, c'est-à-dire Itsy Bitsy, etc. Et autre chose nettement culturelle.
Tout le monde est donc là, sauf son frère Orlando, qui est en retard.
Nous nous trouvions tous, les invités et nous-mêmes, à la mairie. Et puis, à cette époque-là, je n'avais pas... Mes parents étaient encore en Égypte, donc ma famille n'était pas là. Et la seule personne qu'il y avait de proche, c'était mon frère Orlando. Et il savait très bien que je me mariais à telle heure. Et puis, on était tous à la mairie, et on commence à attendre. Puis le maire dit, est-ce qu'on peut commencer? On a dit non, parce que du côté de la mariée, son frère n'est pas encore là. Alors on attend un peu. Et puis, à la fin, je commençais à m'énerver. Je me suis beaucoup énervée. Et j'ai dit, écoutez, monsieur le maire, commençant, ça lui apprendra pour la prochaine fois.
Une fois le mariage passé, les jeunes mariés se remettent au travail. Mais Dalida est une éternelle romantique. Encore mariée, la jeune femme commence une idylle avec Jean Sobieski, qu'elle rencontre dans une boîte de nuit cannoise. Il se voit clandestinement, mais il la suit en tournée. Dalida ne sait que faire. Elle se dit amoureuse des deux hommes en même temps. Mais lorsque Lucien Maurice découvre cette infidélité dans les journaux, il décide de tout arrêter.
C'est vrai?
Oui.
Tu peux pas être plus discrète. On vient de se marier, je te rappelle.
Avec Eddie Barclay, ils se mettent à la prendre en grippe.
Non mais tu fais comme tu veux mon vieux, c'est ton Olympia, pas le mien. Je peux pas t'empêcher de la programmer si t'as envie.
C'est elle qui m'a demandé. Et le public la réclame.
Le public la réclame, Bruno, pas à moi, écoute.
Mais bon, t'es mon ami, je veux pas que tu te sens trahi.
Mais toi aussi t'es mon ami. Mais il faut que je te prévienne. On passera aucune de ses chansons à la radio, on fera aucune promotion pour le spectacle. Pour nous, elle est finie. Et attends, je dis pas ça parce que... Tu me connais, je sais prendre du recul. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui, Bruno? C'est le rock, c'est des yéyés, tu le sais, ça.
Je suis d'accord avec toi. Mais comment tu veux que je lui refuse ça?
Alors Dalida se bat comme elle l'a toujours fait. Elle continue de conquérir son public en tournée, sur scène. Et rapidement, c'est son petit frère Orlando qui a pris comme pseudo le prénom de l'aîné de la famille qui prend le relais pour s'occuper de sa carrière.
Elle a mené tambour battant sa carrière toute seule pendant 5 ans. Mais étant donné qu'elle était déjà une grande vedette internationale, elle partait, elle venait, elle partait. Donc elle l'a fait pendant 5 ans, mais elle a dit c'est plus possible. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là. Je venais de quitter les 5 années d'essai de, comme chanteur. Et puis, comme j'ai dit, parce que je l'ai dit pas mal de fois, j'étais ambitieux et je ne me suis jamais contenté d'un strapontin.
Le 6 décembre 1960, Dalida se produit pour la première fois en vedette sur la scène de l'Olympia. Alors que la vague yéyé est au plus haut, elle chante « Papa, achète-moi un jukebox ».
Oh oh oh, papa, tu peux m'offrir un jukebox.
Pour les forces allemandes, ce sera le jour le plus long.
En 1962, Dalida interprète la bande originale du film Le jour le plus long.
Nous irons au cœur du monde par la poudre et le canon en comptant chaque seconde car ce jour est le plus long.
Les disques s'enchaînent, mais à la fin de l'année 1962, son divorce est signé. La star n'a plus d'argent et elle doit recommencer à zéro. Dalida décide de partir en quête d'un nouveau havre de paix, direction le 18e arrondissement de Paris. Sur les hauteurs de Montmartre, au bout de la rue Le Pic, une grille s'ouvre sur le passage de la rue d'Orchamps. Derrière un grand mur, un hôtel particulier de style 1900 qui ressemble à un château. La maison est immense et compte 4 étages. Pour pouvoir se l'offrir et se sentir enfin chez elle, Dalida emprunte l'argent. C'est à ce moment-là qu'elle adopte un style plus glamour et se teint en blond vénitien. Un nouveau tournant pour la chanteuse qui fait alors son 10 millionième disque vendu dans le monde.
Si tu veux couvrir de rose tout ce que tu vois en gris, si tu es vraiment morose, viens danser le sirtaki. Si tu veux que disparaissent tes soucis et tes tracas, si tu cherches ta jeunesse, viens danser
1965, Dalida enregistre la danse de Zorba pour le film à succès Zorba le Grec. La star enchaîne les tournées, non seulement dans toute la France, mais aussi à travers le monde entier, Brésil, Pologne, Bulgarie, Roumanie, Israël. Devenue icône internationale, la nouvelle montmartroise est désormais en tête des hit-parades du monde entier. Elle est même redevenue amie avec Lucien Maurice. Au début du mois d'octobre 1966, sa maison de disques italienne veut lui présenter un tout jeune auteur-compositeur. Il s'appelle Luigi Tenco. Luigi Tenco et Dalida développent une relation passionnée et passionnelle, mais cachée.
Luigi Tenco.
Cette liaison sera de courte durée. Luigi Tenco a en effet une personnalité dévastatrice. Après un échec lors d'un concours à un festival italien, il se suicide dans sa chambre d'hôtel. Dalida est bouleversée. Nous sommes en 1967 et à 34 ans, elle fait sa première tentative de suicide. L'information se répand en France comme une traînée de poudre. Après 90 heures de coma, Dalida se réveille et demande pardon. À ses proches, elle demande surtout à Lucien Maurice comme une prémonition de ne jamais commettre le même acte.
Oui, et d'ailleurs, avant toute chose, je voudrais remercier tous les gens qui m'ont envoyé par milliers. J'ai reçu des lettres de tous les pays. Je voudrais les remercier de leur témoignage d'amitié. À tous ceux qui m'ont écrit « Je t'aime » en trois lignes ou en plusieurs pages. Parce qu'il faut dire qu'ils m'ont aidé énormément à reprendre la vie. Et je crois que si les médecins ils m'ont sauvé, il y a aussi tous ces... Tout cet amour des gens qui a dû, je ne sais pas, vis-à-vis du bon Dieu, qui ont prié pour moi, qui m'ont sauvé aussi.
Vous croyez que les prières ont aidé votre guérison ?
Oui, je crois qu'il y a les deux.
À partir de là, ces chansons développeront quatre thèmes : l'abandon, la solitude, l'amour et la mort. Pour remettre le pied à l'étrier, il faut très vite refaire un disque. Orlando choisit les grilles de ma maison pour ce super 45 tours.
Ce long voyage est fini, je me retrouve au pays. C'est d'un pas léger que je me dirige chez moi. J'avais peur que tout me soit étranger, mais rien ne semble changer. C'est bon d'ouvrir les grilles de sa maison.
Sur scène, pour couvrir les cicatrices liées à sa convalescence, Dalida réhabilite la robe longue. C'est le début de sa période Madone. Lorsque Dalida fait sa rentrée à l'Olympia, le 5 octobre 1967, c'est un triomphe.
Franchement, on a pris un risque. On a été les premiers, n'ayons pas peur de mots, comme dirait quelqu'un, on a été les premiers producteurs indépendants en France dans l'histoire des discographiques. Hein. Moi et Dalida, on a monté notre maison et je l'ai produit et on a eu une chance.
Mais dans la vie de Dalida, désormais, les moments de joie se mêlent presque toujours au drame. Le 11 septembre 1970, Maurice Siegel, directeur d'Europe numéro 1, lui annonce que Lucien Maurice s'est suicidé à l'âge de 41 ans. Il s'agit du troisième suicide après celui de Tenco et la tentative du sien. La légende noire commence.
Ils sont restés les meilleurs amis du monde jusqu'à la fin. Quand, excusez-moi, mais quand Lucien Maurice est parti, qui s'est suicidé, Dalida l'a veillé trois soirs. Trois soirs. Voilà. Bon, c'était elle, la veuve, c'était pas Agathe. Tout le monde était derrière de leur histoire. Elle avait fait rêver.
Un an, jour pour jour, après la mort de Lucien, c'est la maman de Dalida qui décède d'une embolie. Un nouveau cataclysme qui se ressent dans son œuvre. Dalida ne veut plus interpréter que des chansons poétiques. Fini les chansons légères, en tout cas pour l'instant. Bruno Cocatrix, toujours patron de l'Olympia, a du mal à croire à cette nouvelle orientation.
Elle voulait faire l'Olympia avec un nouveau répertoire, la nouvelle Dalida. qu'elle avait ôté la robe bouffon courte pour la robe longue, comme une vestale Phèdre sur scène. Dalida, ton public ne va pas te suivre. Ils ne sont pas habitués à t'entendre chanter ça, ils veulent de toi autre chose. Elle a dit, c'est ça ou je ne fais pas l'Olympia. Et Bruno Cocatrix, quand même, qu'il est extraordinaire. Après les rideaux, c'est lui qui faisait toujours les rideaux à la fin. Ah, c'est formidable. J'ai toujours cru que c'était pour toi les grandes chansons. Je me bien sûr, Bruno. N'y croyais pas au départ. Ça avait fait sourire Dalida dans la loge.
Évidemment, c'est un immense succès, un de plus. Dalida est une telle star qu'elle se fait même approcher par le milieu politique. Elle rencontre François Mitterrand.
Elle chantait à Marseille pour Gaston Defferre qui était le maire. Il s'est assis mais il n'a plus bougé. Il est resté pendant tout le spectacle. Et après, il a suggéré à Gaston Defferre, il y avait un dîner après. Il fait, tu devrais inviter Dalida. Et Dalida a accepté. Et donc, ils se sont trouvés à table à côté l'un de l'autre. Ils n'ont pas arrêté de parler. Et ça s'est terminé là. Sauf qu'à 5h du matin, à 6h, Dalida à l'hôtel, le téléphone sonne. Et de l'autre côté, il dit, c'est François. Excusez-moi de vous avoir réveillé, mais on a oublié tous les deux d'échanger nos téléphones.
Elle entretient avec le futur président, alors leader du Parti Socialiste, une amitié durable. C'est à ce moment-là aussi qu'elle rencontre son nouvel amant, le comte de Saint-Germain. Son vrai nom est Richard Chanfray. C'est un nouveau coup de foudre pour Dalida. Ce sera sa plus longue histoire. Elle durera 9 ans.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais.
Les années 70 sont pour Dalida aussi fastes que les années 60, avec notamment l'immense tube Parole, Parole, qu'elle interprète avec une autre star, Alain Delon. Au cœur des années 70, Dalida vit peut-être ses plus grandes années, puis elle fait preuve d'énormément d'audace.
C'est toi là-bas dans le noir? Tu pleures, Gigi? Et alors? Et alors, qu'est-ce qu'ils comprennent ces Américains à part le rock et le twist, hein? Ma Gigi, qu'est-ce que tu croyais?
Gigi amoroso, croqueur d'amour, l'œil de velours comme une caresse. Gigi amoroso, toujours vainqueur, parfois sans cœur, mais jamais sans tendresse.
Gigi amoroso, ou l'histoire d'un chanteur de charme napolitain parti pour conquérir l'Amérique. L'insolence de cette chanson, sa durée, bien sûr, 7 minutes 30. C'est Orlando qui a eu cette idée. Gigi l'Amoroso est la chanson la plus longue du music-hall. Début 1975 à l'Olympia, au cours d'un musicorama spécial, Dalida reçoit des mains de Bruno Cocatrix l'Oscar mondial du succès du disque pour saluer sa première place au hit-parade dans 12 pays différents.
Vous savez qu'entre vous, l'Olympia, Europe 1 et Dalida, c'est une belle histoire et une longue amitié. Et ce soir, celle que vous avez tant envie de revoir va revenir pour recevoir de très belles récompenses.
On lui remet aussi 8 récompenses symbolisant ses ventes records en Europe, 4 disques d'or pour la France et 1 pour l'Allemagne. Quel palmarès!
Je voudrais vraiment remercier les nombreux amis qui viennent du quatre coins du monde et qui sont là ce soir.
Et ce n'est pas fini. Voici un nouveau tube. Il venait d'avoir 18 ans.
Il venait d'avoir 18 ans. Ça le rendait presque insolent de
certitude. Et pendant qu'il se raviait, déjà vaincu, je retrouvais ma solitude.
Elle reçoit pour cette chanson le Grand Prix du disque par l'Académie du disque français. Même quand Dalida ne fait pas du Dalida, ça marche. Exemple, avec ce titre disco. Le disco, oui, ce nouveau mouvement musical en provenance des États-Unis.
Dalida m'avait dit, puisqu'on sortait de ce répertoire de grandes chansons, mais que c'était tout dans l'interprétation et pas qu'elle bougeait, les gens ont dit, maintenant j'ai envie de bouger sur scène, trouve ma chanson que je puisse faire esquiver quelques pas et tout ça, que je montre que je sais faire autre chose aussi. Et puis c'était un peu la mode devenue comme ça, un peu de chorégraphie. Et j'appelais Tony Rallo, qui était mon complice chef d'orchestre de l'époque. Je dis, écoute, je vais te trouver une chanson, mais il faut que tu me fasses du rythme et je voudrais un riff de cuivre pour qu'à ce moment-là, elle puisse danser. La chanson, elle est venue toute seule. J'étais chez moi un soir, j'entends la télévision dans un vieux film, J'attendrai, le grand succès de Rina Kitty à l'époque. Tiens, ça c'est pour Dalida. Et donc, avec Tony Rallo, il s'est mis au piano et il a fait cette orchestration magistrale de Rina Kitty, de la chanson de Rina Kitty, J'attendrai, qui était à la base une prière que les gens chantaient pour les prisonniers pour la guerre. Ma mère la chantait en attendant mon père qui était interné pendant la guerre.
J'attendrai ton retour.
Et il a fait ce riff de cuivre qui a fait un malheur. Ça a permis de montrer une nouvelle Dalida. Elle a commencé à danser, elle a commencé à porter des robes fuseaux. Ce qu'elle n'avait pas montré quand elle avait 20 ans ou 30 ans, elle a montré vers 40 ans.
J'attendais.
Arrive au Canada parce qu'elle faisait une tournée au Québec. Et donc, dans la conférence de presse, il y avait plein de journalistes, tout ça. Il dit, mais Dalida, vous faites de la disco. Et Dalida, de la disco, elle dit, j'attendrai. La chanson que vous chantez, c'est de la disco, puisque les gens dansent sur votre chanson, discothèque. Discothèque, disco. Ah ben, alors je fais de la disco, ben, je l'ai fait sans le savoir. Et voilà. Mais c'était la première, le premier disco en France, en français.
C'est l'une des premières françaises qui a effectivement chanté du disco, en plus effectivement sur une chanson des années 40, ce qui est quand même extraordinaire, c'est-à-dire un recyclage comme ça d'un classique du patrimoine de la chanson française en le transposant dans un rythme dansant, ce qui était quand même très fort.
Dalida est à l'apogée de sa carrière, elle se permet même de lancer des mouvements. Sa vie devient une légende. Un deuxième tube disco suivra 3 ans plus tard.
Je vis d'amour et de risque quand ça va pas. Je tourne le disque, je vais, je viens. J'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si y avait rien à dire. J'ai le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'ombre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi. Laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été.
Laissez-moi danser est le tube de l'été 79. Dans cette période faste, tout semble possible pour Dalida. Elle chante à New York, au Carnegie Hall. En janvier 80, elle remplit aussi le Palais des Sports pendant 15 soirs de suite. Elle se réconcilie enfin avec le monde arabe, elle qui avait promis de chanter un jour en égyptien. Toujours en pleine vague disco et toujours sur une idée d'Orlando, elle chante « Salma ya Salama », titre aux sonorités arabisantes. Après avoir chanté la première chanson disco française, elle est donc également à l'origine de la première chanson raille française. Quand en 1981, François Mitterrand est élu président de la République, Dalida est toujours proche de lui. Le nouveau chef de l'État vient d'ailleurs souvent la voir à Montmartre.
Il faisait arrêter la voiture à l'angle de la rue d'Orchamps, rue Lepic, et il venait à pied. Et donc, le service de sécurité dit, un jour, il va se faire assassiner parce que c'était noir. Et comme ça, un jour, un matin, 7h, 8h, dans le dent, on entend des coups de marteau piqueur. Elle appelle sa femme de chambre, elle dit, mais écoute, Hélène, qu'est-ce qui se passe? Madame, ils sont en train, je sais pas, de planter de la lumière. Alors que la sécurité avait fait planter dans la rue des réverbères ou des lumières. Voilà, pour que... Les Montmartrois de l'époque qui habitaient, quand on leur a posé des questions comment elle était Dalida, elle s'est dit, bon, enfin, grâce à elle, on a eu de la lumière. Grâce à la dame, on a eu de la lumière à la rue d'Orchamps.
Les années 80 seront pourtant les plus dures de sa vie. Après le suicide de Richard Chanfray en 1983, ses yeux recommencent à lui faire mal, à tel point qu'elle doit subir de nouvelles interventions chirurgicales. C'est durant un séjour à l'hôpital qu'elle fait la rencontre du docteur François Naudy. Il sera le dernier homme avec qui elle partagera sa vie.
Pour ne pas vivre seul, on vit avec un chien, on vit avec des roses ou avec une croix. Pour ne pas vivre seul, on se fait du cinéma, on aime un souvenir. Une ombre n'importe quoi. Pour ne pas vivre seul, on vit pour le printemps. Et quand le printemps meurt, pour le prochain printemps. Pour ne pas vivre seul, je t'aime et je t'attends. Pour avoir l'illusion de ne pas vivre seul.
Ce sont ces épreuves personnelles de femme qui lui ont inspiré les grandes chansons. D'ailleurs, on avait une habitude de nous recevoir le dimanche et elle parlait, elle disait des choses. Étant donné qu'il y avait des auteurs, ils étaient là pour écouter. Elle a inspiré, sans les écrire, beaucoup de chansons parce qu'elle disait ce qu'elle pensait, surtout les 10 dernières années de sa vie. C'est là qu'ils sont nés les grandes chansons. Mourir sur scène, pour ne pas vivre seul, et Luca, pour en arriver là, la liste est longue.
Femme, comme vous, moi, je suis femme. Pour de rien, mon cœur s'enflamme. Quand je suis amoureuse, je deviens femme heureuse. Prête à toutes les folies, tout quitter en pleine nuit, pour aller suivre à tout prix ma chance, femme.
Tout au long de sa vie, Dalida a construit une carrière légendaire. Elle a marqué la deuxième partie du XXe siècle de son empreinte, elle qui avait quitté son quartier de Choubra pour devenir quelqu'un. Au moment de son départ, le 3 mai 1987, Orlando avait promis à sa sœur qu'elle ne serait jamais oubliée. Presque 40 ans plus tard, la promesse est bien tenue, Dalida est toujours immortelle.
Ce qu'on a reproché au début, aujourd'hui ça la sert dans sa longévité, parce qu'à chaque époque, à chaque mouvement il y a un morceau du répertoire de Dalida qui correspond. Et c'est pour ça qu'elle est intemporelle. Parce qu'elle a chanté tellement de styles différents qu'elle laisse à chaque époque une empreinte. Et puis peut-être aussi que cette, ma fierté, c'est que les jeunes, la nouvelle génération, découvrent Dalida, aiment Dalida, reprennent les chansons de Dalida. Et puis, en dehors de l'artiste, il y a la femme. Je l'ai toujours dit, il faut que la vie de la femme et la vie de la star artistique vont de pair. Et Dalida, elle, elle a eu ça.
Destin extraordinaire consacré à Dalida et raconté par Pascal Pro. Vous venez d'écouter la troisième partie de ce podcast disponible dans son intégralité sur votre plateforme d'écoute préférée et notamment sur europe1.fr. La nuit se poursuit avec les histoires d'amour extraordinaires que nous raconte Sophie Davant tous les week-ends de 16h à 17h, qu'il s'agisse de célébrités ou d'anonymes. Et elle va donc nous raconter dans un instant celle d'Anthony, tombé amoureux de son auxiliaire de vie, Lilou. Et ce sera juste après Jonathan Dassin avec Cours.
Dis-moi comment il marche, ces pantins qui courent. On vit comme des robots dans un compte à rebours. Je serais bien resté plus longtemps dans tes bras, mais le devoir m'appelle, il est plus fort que moi. Tout va trop vite, tout est en fuite, tout est tout de suite, on n'a jamais le temps. Je suis pressé et dépassé, les trains ne font que passer. Et je cours, 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 mon amour tous les jours, mon amour tous les jours. Et je cours, 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 mon amour tous les jours, mon amour tous les jours. Et je cours, cours, cours. L'avenir m'appartient, enfin c'est ce que je crois. Je cours jour après jour, je cours mois après mois. Même si les heures défilent, je t'offrirai des fleurs, une minute de bonheur. Tout va trop vite, mais on mérite mieux que la fuite, le début sans la suite. J'ai essayé de te garder, tu n'as fait que passer. Et je cours, 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 mon amour tous les jours, mon amour tous les jours. Et je cours, 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 mon amour tous les jours, mon amour tous les jours. Et je cours, 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 mon amour tous les jours, mon amour tous les jours. Et je cours, 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 mon amour tous les jours, mon amour tous les jours. Est-ce que nous aurons le temps,
mon amour,
le temps d'être content?
Jonathan Dassin dans les pas de son père, Joe Dassin. Voilà, c'était Cours à l'instant, une nouveauté Europe 1. L'heure est venue à présent de retrouver Sophie Davant. Elle va nous raconter une très belle histoire d'amour, une histoire d'amour pas banale forcément. Chaque week-end de 16h à 17h sur Europe 1, elle nous raconte alors des histoires de personnes célèbres, mais pas forcément, comme c'était le cas encore ce dimanche.
Aujourd'hui, une histoire d'amour hors norme, celle de Lilou et Anthony. Il est tétraplégique, elle est son auxiliaire de vie. Bien qu'il se défende d'avoir une histoire flamboyante qui sort des sentiers battus, Il est bien rare et donc tout à fait extraordinaire de voir une auxiliaire de vie tomber amoureuse de son bénéficiaire tétraplégique. D'autant qu'au départ, la conscience professionnelle de Lilou lui interdit tout rapprochement avec Anthony. On se retrouvera juste après avec eux, Lilou et Anthony, et ensemble, nous reviendrons sur leur histoire d'amour extraordinaire. Mais tout de suite, place au récit.
Les histoires d'amour extraordinaires.
Sophie Davant.
Le récit.
Quand j'ai dit que j'aimais un homme tétraplégique, les regards ont changé. Certains ont trouvé ça beau, d'autres ont trouvé ça triste. Personne n'a trouvé ça normal. On pense toujours à ce que je fais pour lui, mais on oublie tout ce qu'il fait pour moi. C'est lui qui m'a appris ce que c'était que d'être aimé sans condition. C'est lui qui me fait voir la vie autrement. Lui qui a pris mon fils sous son aile. Ce que je vis depuis 7 ans n'a rien d'un sacrifice, c'est juste une évidence. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé du grand amour. Enfant, mon objectif de vie, c'était de construire ma famille avec un mari que j'aime. Oui, je recherchais déjà la perle rare. Aujourd'hui, à 34 ans, j'ai la chance folle de pouvoir dire que je l'ai trouvé. Anthony, mon mari, est à la fois mon amoureux, mon complice et mon meilleur ami. Il est à l'image de l'homme que j'avais toujours espéré. On me dit souvent que notre histoire est hors du commun. Moi, je ne trouve pas. Notre amour est fort, c'est vrai, mais il n'a rien de flamboyant ni d'héroïque. Notre particularité tient simplement dans notre rencontre, celle d'un jeune homme tétraplégique et de son auxiliaire de vie. Pour le reste, on est un couple comme les autres, avec ses galères, ses engueulades pour des bêtises, ses rêves et ses instants de bonheur. Anto et moi, sur le papier, je n'y aurais jamais cru. Pourtant, nous étions faits pour nous rencontrer. J'ai découvert mon métier grâce à ma mère. Elle était auxiliaire de vie. Petite, je l'accompagne souvent dans sa tournée. C'est l'un des rares bons souvenirs que j'ai avec elle. Le lien qu'elle crée avec ses clients est tout simplement magnifique. Je l'admire. Et puis c'est génial d'être la chouchoute des papiers et mamies qu'elle côtoie. Ah, voilà notre petite star. Tiens Lilou, viens voir. Je t'ai acheté une Barbie. Oh merci, elle est trop belle. Ces marques d'affection et d'intérêt me réconfortent. À la maison, l'ambiance n'est pas la même. Enfant, mes parents ne s'occupaient pas de moi. Ils étaient là, physiquement, mais ça s'arrêtait là. Émotionnellement, ils sont restés aux abonnés absents. Entre nous, il n'y avait pas de jeu, pas de partage, pas de câlins. Ce manque d'amour m'a poursuivi toute ma vie. À 19 ans, jeune et naïve, je tombe enceinte. Cette grossesse n'est pas désirée. En revanche, ce bébé, je fais le choix de le garder, de l'assumer et de l'aimer. Jamais je n'ai regretté ma décision. Mon fils est ma plus grande fierté. La présence de son père auprès de nous est plutôt furtive. Après l'avoir reconnu, finalement, quelques années plus tard, il disparaît définitivement de nos vies. Moi qui rêvais de fonder une famille, cette désillusion est violente. Fragilisée, je croise alors la route d'un pervers narcissique. Avec lui, à nouveau, l'histoire est douloureuse. Sa jalousie et ses manipulations me font vivre un enfer. Au bout de 5 ans, quand je réussis enfin à le quitter, je suis persuadée que l'amour, c'est fini pour moi. Désabusée, j'en viens même à la conclusion que tout ça n'est qu'un fantasme. Une belle histoire qu'on se raconte pour tenir le coup. Moi, tout ce que je veux dorénavant, c'est rester célibataire pour préserver ma sérénité. Priorité à mon fils et à mon travail. En 2015, en quête de sens, je quitte mon job alimentaire de serveuse pour me former au métier du soin et de l'aide à la personne. Mettre l'humain au centre de mon quotidien, être au service des autres. Finalement, c'est ce qui m'attire depuis toujours. Redevenir étudiante est un défi. Il faut bûcher, s'occuper du petit, faire la route. Chaque soir, je rentre chez moi complètement HS. Et pourtant, je rayonne. Enfin, j'ai trouvé ma place. Hors de question de lâcher. Je tiens à avoir une carrière qui me plaise. Pour mon épanouissement personnel, mais aussi pour montrer l'exemple à mon fils. Tu sais, Mathéo, c'est important de faire un métier qui te donne envie de te lever tous les matins. C'est ça, l'objectif, pas le salaire. Ce nouveau travail d'auxiliaire de vie me passionne. Pendant 2 ans, il prend énormément de place dans ma vie. Trop, sans doute. Je frôle le burn-out. Besoin de renouveau, je décide alors de changer d'employeur. L'occasion se présente au printemps 2018 dans un forum de l'emploi. Au milieu des allées, je tombe sur le stand d'une agence d'aide à domicile. Motivée, je mets ma timidité naturelle de côté, j'inspire un bon coup et CV en main, je me présente au directeur et à la responsable RH. « Votre profil pourrait nous intéresser, Lilou. » Justement, nous avons besoin de remplacer l'une de nos auxiliaires de vie qui ne fait pas l'affaire. Il s'agit de s'occuper d'un monsieur tétraplégique. Cela vous pose problème ? Absolument pas. Parfait. C'est un temps plein qui pourrait correspondre à votre vie de famille, avec 2 nuits sur place par semaine. Dans mon métier, ce type de contrat stable est une aubaine. Surtout quand on est maman solo, avec un planning très serré. J'accepte aussitôt. Le 11 avril, rendez-vous est pris avec Julie, la RH de l'agence. Elle m'accompagne chez Anthony pour faire les présentations. Tu verras, c'est un garçon très sympa, il a beaucoup d'humour. Tant mieux, mais je ne suis pas d'humeur à rire. La tétraplégie implique des soins complexes, je veux être à la hauteur de ma tâche. Un peu stressée, je suis Julie dans la maison, jusqu'au bureau où travaille Anthony, qui est patron de sa boîte. Tout sourire, il me salue. « Enchantée, Lilou !» Et là, le choc. Mon nouveau bénéficiaire a 30 ans. À peine 3 ans de plus que moi. C'est la première fois que ça m'arrive. On ne m'avait pas prévenu. Cette proximité d'âge me met très mal à l'aise. Jusque-là, j'ai toujours travaillé avec des personnes âgées. Avec elles, il y a moins de gêne. Tout est plus naturel. « Approche, Lilou. Je vais t'expliquer le dossier d'Anthony. » À l'autre bout de la pièce, j'ose à peine avancer. Je suis plongée dans le néant. Est-ce que je vais assumer ce job ? Franchement, je ne le sens pas du tout.
Les histoires d'amour extraordinaires.
Sophie Davant.
Le récit.
Entre Anthony et moi, les débuts ne sont pas évidents. Timide et troublée par son âge, j'hésite à partir sur le champ. Alors que Julie m'expose ses antécédents, sa force de résilience m'apparaît. Ce garçon revient de loin. 10 ans auparavant, un accident de motocross a bouleversé sa vie. Accro à l'adrénaline, il est tombé la tête la première. 4 cervicales ont été brisées. Avec atteinte grave à la moelle épinière. Malgré sa volonté d'acier et une longue rééducation, le diagnostic a été sans appel. Ses membres inférieurs, ses poignets et ses mains sont définitivement paralysés. Devenir dépendant à 20 ans est un déchirement. Cette épreuve aurait pu le rendre amer, mais en 6 mois, Une fois le choc passé, Anthony a su accepter son handicap et se réinventer. J'admire cette capacité d'adaptation, mais mon problème reste le même. Ce nouveau patient a presque mon âge. Je me sens gênée, sans savoir quelle posture adopter avec lui. Bon, je vous laisse tous les deux. On fait le point demain matin ? Quand Julie referme la porte, je fais bonne figure, mais je me sens perdue. C'est ma première nuit de garde avec Anthony. Est-ce que je vais assurer ? Au moment de l'installer au lit, mes gestes sont maladroits. Il ressent ma gêne, qui finit par déteindre sur lui. Les jours se suivent et nos interactions restent du même acabit, un peu froides et surtout hésitantes. Très réservée, je me montre distante. Anthony ne m'en tient pas rigueur, au contraire, il aime me taquiner pour me mettre plus à l'aise. N'aie pas peur de me faire mal, Ilou, tu sais, mes jambes sont déjà foutues. Sa spontanéité et sa gentillesse me mettent en confiance. Nous commençons à discuter plus souvent. Un sujet surtout nous rapproche, le défi sportif que s'est lancé Anthony 10 ans après son accident. Je voudrais faire un périple en fauteuil sur la Via Rhôna. Je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est ? Une piste cyclable qui suit le Rhône. Mon but, c'est de rallier Chambéry à Marseille. Ce projet est notre premier terrain commun. Il nous détend tous les deux. Les blagues d'Anthony font tomber toutes les barrières. Il me fait rire sans cesse, aux éclats. Et là, en douce, sans que j'en prenne conscience, des sentiments s'installent. Je ne vois ni son fauteuil, ni les contraintes liées à son handicap. Je le vois juste lui, avec sa force de vie et ses fous rires qui me désarment. Quelque chose m'attire déjà, mais je refoule cette idée. Au bout de 3 semaines, ma décision est prise, je reste travailler pour lui. Au début, seuls les horaires qui m'offrent une vie familiale stable me retenaient. Mais ma vision d'Anthony a changé, cet homme est chaleureux. Je le trouve attachant, je réussis à oublier son âge. Et puis, au-delà de l'aspect médical, sa compagnie est agréable. Nous avons des goûts et des références en commun. Il adore le rap français à l'ancienne, moi aussi. Je me sens proche de lui et de ses amis qui passent souvent le voir. Au quotidien, cette entente est plaisante. Mais je tiens à rester dans le cadre. On ne mélange pas le privé et le pro. Ce qu'Anthony n'a pas toujours l'air de comprendre. Lilou, je vais au cinéma avec des potes ce soir. Ça te dirait de nous rejoindre ? Merci pour l'invitation, mais je te rappelle que je ne suis pas censée t'accompagner dans tes sorties. En revanche, je t'attendrai chez toi pour t'aider à te mettre au lit à ton retour. Pour ça, pas de problème. Lors de ma formation, j'ai été prévenue du danger des rapprochements entre soignants et soignés. À force de discussions et de moments partagés, une forme d'intimité peut naître. Il n'est pas rare qu'elle se transforme en relation sentimentale. Et c'est exactement ce que je redoute. J'ai conditionné mon cerveau pour que cela n'arrive jamais. Bien sûr, on peut ressentir une forme d'affection pour les personnes prises en charge, mais il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Je ne baisse pas ma garde. Pour autant, ma position est difficile à tenir. Je n'ai pas non plus de raison de me montrer froide avec Anthony. Jamais il n'a été déplacé ou irrespectueux. Mais quelque chose cloche. Je ne peux pas nier qu'il saisit toutes les occasions de m'envoyer des SMS. J'en reçois plusieurs dizaines par jour de sa part. Une fois, il m'écrit carrément pour me recommander un film sur l'histoire d'amour d'une infirmière et de son patient. Tout ça devient complexe à gérer. J'aimerais qu'on reste dans les clous. Pourtant, c'est étrange, en soirée avec mes copines, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles en lisant ces rafales de textos. C'est à peine si j'entends ce qu'elle raconte. « Ohé, Lilou, dis-le si on te dérange !» Tout ça monte crescendo. Je ne sais plus quoi penser. Est-ce que je me fais des films ? Je me suis peut-être trop rapprochée de lui. En tout cas, je ne veux pas laisser une ambiguïté s'installer. Il ne faut surtout pas qu'il tombe amoureux de moi. Je dois mettre les choses au clair. Et si jamais il s'avère que j'ai vu juste, s'il y a quelque chose entre nous, je suis déterminée à démissionner et à couper les ponts. Sinon, j'aurai l'impression de commettre une faute professionnelle et morale. Le 6 août au matin, je prends mon courage à deux mains. Anthony, quand je reviens ce soir, il va falloir qu'on parle. En entendant cette phrase, son sourire se crispe. Oui, oui, si tu veux. Quelques heures plus tard, au moment de le coucher, je le sens mal à l'aise, le pauvre. Il a dû cogiter toute la journée. Pas de blague aujourd'hui. L'ambiance est tendue. Il faut crever l'abcès. Bon, Anthony, qu'est-ce qui se passe ? Tu n'arrêtes pas de m'écrire et de m'appeler. Écoute, je suis tombée amoureux de toi, c'est tout. J'ai tenté de contrôler mes sentiments, mais je n'y peux rien. Tu me plais. Voilà, c'est dit. Je n'attends rien de toi, surtout pas que ce soit réciproque. Mais au moins, tu sais ce que je ressens. Mais Anthony, tu sais bien que c'est incompatible avec mon travail. Je ne veux pas avoir une relation avec toi. C'est une question d'éthique.
Les histoires d'amour extraordinaires.
Sophie Davant.
Le récit.
Quand j'annonce à Anthony que rien n'est possible entre nous, sa réaction me déstabilise. Je pouvais l'imaginer triste ou vexé, mais voilà qu'il éclate de rire. Tu me rejettes pour une question d'éthique ? Je peux tout entendre, que mon handicap est rédhibitoire, que tu ne peux pas t'engager à cause de ton fils, ou même que mon physique te rebute, tout, mais pas l'argument de l'éthique. Mais je risque mon travail. Le travail est une mauvaise excuse. Si ce n'est que ça, on trouvera une solution. C'est simple, soit tu me dis non parce que tu ne veux pas de moi, ça fait partie de la vie, je l'accepterai et on en reste là. Ou bien tu m'embrasses parce que concrètement, je te plais. Alors ? À ces mots, mon estomac se serre. En une fraction de seconde, tout bascule dans ma tête. Je comprends qu'en réalité, je me mens à moi-même depuis des semaines. Je ne veux pas fuir, je veux rester là, avec lui. L'homme dont je suis tombée amoureuse, malgré moi. Oui, j'ai des sentiments pour toi. Incapable de bouger après cet aveu, je reste tétanisée pendant 10 bonnes secondes. Mon cerveau est en panique totale. Alors, Lilou, qu'est-ce que t'attends pour m'embrasser ? Je me penche vers lui. Notre premier baiser est intense, passionné. Il fait aussitôt grimper la température. Pourtant, Anto me repousse gentiment. « Je ne veux pas coucher avec toi le premier soir. Je te respecte trop pour ça. » Je pense d'abord que c'est une excuse. Peut-être que son handicap l'empêche de faire l'amour de façon traditionnelle. Beaucoup de questions me trottent alors dans la tête, mais je n'ose pas les poser. C'est seulement 2 jours plus tard que nous abordons ouvertement le sujet. Je peux avoir des relations sexuelles, c'est juste que mes sensations sont différentes. Parfois, il peut aussi arriver que je ne ressente rien. Mais quoi qu'il en soit, cela ne m'empêche pas d'avoir du désir et de prendre du plaisir. C'est l'essentiel. Il faut juste trouver la bonne partenaire de jeu. Je suis heureuse de savoir que nous pourrons explorer notre intimité. Cette complicité-là aussi est importante pour un couple. Mais à vrai dire, pour le moment, mon souci principal n'est pas là. Dans mon métier, une relation comme la nôtre est tabou. Je m'inquiète des répercussions éventuelles. Il vaudrait mieux faire profil bas, mais je n'aime pas les secrets. Le matin, je sors en catimini du lit d'Anthony avant que ses autres auxiliaires de vie n'arrivent. Je déteste cette mascarade. Ce cachet est pesant. Anto craque le premier. C'est bon, j'en ai marre. C'est ridicule. On n'a plus 15 ans. Oui, tu as raison, on est adulte. Et cette histoire n'est pas une amourette sans lendemain.